Allons voir le mystère de la science infuse de Jésus. Passons maintenant à la science infuse de l'âme de Christ. À ce sujet, six questions se posent. Par cette science, le Christ connaît-il toutes choses? Le Christ a-t-il pu se servir de cette science sans faire appel aux images? Cette science est-elle discursive? Quel est son rapport à la science angélique? Cette science est-elle à l'état d'habitus? Se divisait-elle en plusieurs habitus? Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, cette question de la science infuse du Christ est très battue en brèche par beaucoup de théologiens. Parce qu'évidemment, ce n'est pas commode, bien précisé. Il faut saisir la raison théologique sur laquelle repose la question de la science infuse, comme fondement de la révélation, du moins, voir dans la révélation qui nous est faite de Jésus, comment le théologien doit-il poser nécessairement cette science infuse. Vous allez relever les sept contrats d'autorité de saint Thomas, pour essayer de bien comprendre. Donc la première question, par sa science infuse, le Christ connaît-il toutes choses? La question précédente, ne l'oublions pas, parce que c'était là où saint Thomas se posait l'existence de cette science. C'était la question de l'existence même de la science infuse. Il ne faut pas l'oublier, parce que les deux questions se tiennent. Non, le Christ a-t-il possédé une science infuse? Question 9, article 4. N'est-ce pas? Et là, vous voyez cela. Il est écrit. Je dis ça, c'est parce que c'est l'existence. Et qu'est-ce que c'est? Alors, la question que nous voyons maintenant, c'est qu'est-ce que c'est que la science infuse? Et quelle est l'étendue de cette science infuse? Il est écrit dans l'Épître aux Hébreux, tout fils de Dieu qu'il était, il a appris par ses propres souffrances à obéir. Ce que la glose entend d'une science, d'une connaissance. C'est trois. Hein. Science acquise. C'est la science, c'est la question 3. Il est écrit dans l'Épître aux Colossiens que le Christ possède tous les trésors cachés de la connaissance et de la science. Donc, question 9, article 3. Il est écrit dans l'Épître aux Colossiens que le Christ possède tous les trésors cachés de la sagesse et de la science. Vous voyez la note 42 qui nous est donnée pour montrer l'existence de cette science. Vous voyez que tous les trésors cachés de la sagesse et de la science. Donc ça ne peut pas se ramener à la science bienheureuse. Ça ne peut pas se ramener à la science acquise. Il y a donc entre deux quelque chose de particulier qui est justement cette connaissance infuse. C'est, je crois, ce qu'il y a de, d'une certaine manière, ce qu'il y a de plus difficile à bien préciser. C'est ce domaine particulier de la science infuse. Donc ce que saint Thomas va essayer de préciser dans cette question 11. On lit dans Isaïe, il a été rempli de l'esprit de sagesse, d'intelligence, de science et de conseil. Or, sous ces expressions, il faut entendre tous les objets de connaissance à la sagesse. En effet, revient la connaissance de toute chose divine, à l'intelligence, la connaissance de toutes les réalités immatérielles, à la science, la connaissance de toutes les conclusions, au conseil, la connaissance de toutes les choses pratiques. Il semble donc que le Christ, par la science infuse que l'Esprit Saint lui communiquait, a connu toutes choses. Mais c'est très curieux, hein, parce que ça, c'est les dons du Saint-Esprit. Traditionnellement, c'est les dons du Saint-Esprit. Alors, les dons du Saint-Esprit, c'est pas la science infuse. C'est pour ça que c'est pas si commode que ça. Nous avons tous les dons du Saint-Esprit, nous n'avons pas la science infuse. Vous voyez, la science infuse, il faut bien comprendre la différence. C'est quand même très important de voir la différence entre science infuse, toute science se détermine par son objet propre, ou par ses objets propres, et par la raison formelle sous laquelle on regarde ces différents objets. Ça, c'est le propre de la science. Qui dit infuse, dit le mode d'acquisition. Infuse ne touche pas au caractère de la science. La science est spécifiée par l'objet. Tandis qu'infuse dit la manière d'acquisition. On acquiert une science par sa propre expérience, par son travail, et on la reçoit de manière infuse. Évidemment, on peut rappeler. Saint-Joseph passe à travers, là. Les sciences infuses, pas de labeur, pas de travail. C'est merveilleux. Mais, tandis que la science acquise, hein, c'est le laboratoire, c'est les difficultés, toutes les choses qui font manière donc, d'acquisition. Et les dons du Saint-Esprit, c'est encore autre chose. Les dons du Saint-Esprit, c'est la modalité d'exercice. Donc ici, ça fait appel à la cause efficiente, si j'analyse. La cause efficiente, manière d'acquisition. Les dons, c'est l'exercice à cause de la finalité. Donc, c'est toute la causalité. Mais la causalité finale joue un rôle très important dans les dons du Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit ne peuvent pas se comprendre en dehors de la charité. Les dons du Saint-Esprit ne sont pas d'ordre charismatique, c'est de l'ordre de la sanctification personnelle. Tandis que la science infuse a un petit rapport plus avec les charismes. C'est beaucoup plus en fonction, à cause de la fonction qu'on doit avoir. C'est pas directement et premièrement la question de la sanctification personnelle, c'est par rapport à la fonction. C'est parce que Jésus est roi de toute l'humanité et de l'Église qu'il lui est nécessaire d'avoir la science infuse, comme nous allons voir. C'est à cause de cette fonction. Tandis que les dons du Saint-Esprit, c'est sa sainteté personnelle. Et les dons du Saint-Esprit, donc, expriment ma modalité particulière. Alors, le don de sagesse, le don d'intelligence, le don de science, le don de conseil, que Saint Thomas rappelle au début ici, hein, qu'on fait Isaïe. Regarde la manière dont Jésus, de fait, à exercer la sagesse, à exercer la science, à exercer, à dire, toute divine d'amour. C'est le mode divin. Les dons, c'est le mode divin. Donc, c'est pas la même chose que la science infuse. Alors, c'est très curieux, Saint Thomas a une petite distraction. Et qu'il a donné ici, on va essayer de comprendre au terme. Je pose la question, parce que c'est intéressant de se poser la question. Parce qu'on voit très bien, ça ne colle pas, si vous voulez. C'est très rare que ça ne colle pas chez saint Thomas. On dirait un esprit très précis. Or ici, ça ne colle pas. Il prend traditionnellement, le passage d'Isaïe, c'est les dons du Saint-Esprit. Jésus reçoit la plénitude des dons du Saint-Esprit. Parce qu'il est serviteur par excellence, il est envoyé par excellence. Et donc, il est sous la motion de l'Esprit Saint et il vit des sept dons du Saint-Esprit. Or, ce qu'on cherche ici, c'est de savoir s'il y a dans le Christ une science infuse qui n'est pas la science des bienheureux et qui n'est pas la science acquise. Parce que nous avons vu la fois dernière. Autrement dit, essayez de saisir cette place particulière de la science infuse. Alors, voyons le corps de l'article. Comme on l'a déjà dit, il convenait pour que l'âme du Christ fût de tout point parfaite, que toute sa potentialité fût réduite à l'acte. C'est toujours le grand principe que prend saint Thomas. Hein. L'âme du Christ est dans un état de perfection, d'où toute sa potentialité, toutes les potentialités de connaissance demandent d'être actuées. Or, il faut considérer que dans l'âme du Christ, comme d'ailleurs en toute créature, il y a une double puissance passive, l'une par rapport à l'agent naturel, l'autre qui se réfère au premier agent, lequel peut réduire toute créature à un acte plus élevé que ne le peut faire l'agent naturel. Puissance obédientielle. La puissance obédientielle regarde l'agent principal. Nous sommes tous en puissance obédientielle à l'égard du Verbe de Dieu. Le Verbe de Dieu peut nous infuser des quantités de lumière. Donc, l'on a coutume de donner à cette dernière puissance de la créature le nom de la puissance obédientielle. Précisément, l'une et l'autre puissance dans l'âme du Christ furent réduites à l'acte par la science divinement infuse. En sorte que, par elle, l'âme du Christ connut d'abord tout ce qui peut être connu par la lumière de l'intellect agent. Comme par exemple tout ce qui relève des sciences humaines. Puisque par cette même science, connut encore tout ce que les hommes connaissent par révélation divine, toutes les révélations, que cela relève du don de sagesse. Ou du don de prophétie, ou de tout autre don du Saint-Esprit. Toutes les révélations particulières, privées. Et toutes ces choses, le Christ les connut d'une manière plus abondante et plus achevée que les autres hommes. Pourtant, cette science ne lui fit pas connaître l'essence même de Dieu. Un tel objet appartient à la première science dont nous avons parlé dans la question précédente. Et comme c'est curieux. Hein ? Je ne sais pas si ça vous satisfait, mais ça ne me satisfait pas tellement comme argumentation. C'est très curieux, hein, c'est très très curieux comme argumentation de saint Thomas. L'âme humaine, le principe très net, hein, il faut que tout ce qui dans l'âme humaine est en puissance demande d'être actuel. Donc, il y a le nous, dans l'âme du Christ, il est en puissance, donc l'intelligence. L'intelligence est en puissance. Double potentialité. Potentialité à l'égard de l'intellect humain. Là, intervient tout de suite, hein, une pièce dominante de toute la connaissance de l'âme chez Aristote. Ça ne le gêne pas. Hein. Ça ne le gêne pas du tout. Il faut pas garder, hein, attention, je parle de l'intellect agent. Dans toute la perspective de saint Augustin, l'intellect agent, ça n'existe pas. Hein. Mais c'est la perspective que prend saint Augustin. C'est très curieux et c'est intéressant. Vous voyez la simplicité avec laquelle saint Thomas argumente. Théologien, l'intellect agent. Donc, actuer cette potentialité de l'intellect possible. Parce que s'il y a un agent, il y a un possible. Nécessairement, s'il y a quelque chose qui est en acte, il y a quelque chose qui est en capacité d'être actué. L'intellect agent actue l'intellect possible. Et puis, il y a référence à l'intelligence première. Et l'intelligence première, je mets le verbe, vous comprenez bien. L'intelligence première, c'est le Dieu Trinité. Et le verbe, c'est celui qui est un avec cette intelligence première, qui est la vérité première. La vérité première peut agir directement sur l'intellect possible. En télescopant l'action de l'intellect agent. Et en agissant directement de cette manière-là, l'intelligence première donne à l'intelligence possible toutes les possibilités, toute l'actuation nécessaire. C'est bien l'argumentation de cet homme. C'est tout à fait général, hein. C'est une argumentation très, très... Vous voyez, précisons, l'une et l'autre puissance dans l'âme du Christ furent réduites à l'acte par la science divinement infuse. En sorte que par elle, l'âme du Christ connut d'abord tout ce qui peut être connu par la lumière de l'intellect agent. Comme par exemple, tout ce qui relève des sciences humaines et la métaphysique. Métaphysique infuse. par cette même science, connu encore tout ce que les hommes connaissent par révélation divine, toutes les révélations particulières, que cela relève du don de sagesse ou du don de prophétie, tout l'aspect charismatique, ou de tout autre don du Saint-Esprit. Et toutes ces choses, le Christ les connut d'une manière plus abondante et plus achevée que les autres hommes. Pourtant, cette science ne lui fit pas connaître l'essence même de Dieu. Alors, cette main montre en fonction de sa royauté, en fonction même que son âme est plus parfaite que l'âme de tous les autres. Il est le premier. Et parce qu'il est le premier, il a cette situation unique.
Oui. Est-ce que c'est parce qu'elle repasse par les images que nous ne pouvons pas connaître l'essence de Dieu ?
Ah non, c'est parce que pour connaître l'essence de Dieu, il faut la surrévélisation de l'humaine de gloire. Mon âme ne peut pas, mon intelligence ne peut pas être indirectement Dieu sans cette surrévélation. Or ici, il parle simplement de la potentialité de l'âme. C'est le fameux capax dei. Très intéressant de voir ça, c'est cette potentialité qu'il met. Il y a une potentialité encore plus radicale de l'âme qui appelle la vision béatifique. Mais ici, il parle de la capacité de l'âme selon son mode, vous voyez, humain. Oui.
Saint Thomas fait appel au don du Saint-Esprit, vous les avez rattachés à la sainteté.
Mais oui.
Mais dans la mesure où il a la vision béatifique, est-ce que l'exercice des dons n'est pas modifié et relativisé en ce qui concerne les dons intellectuels à la vision elle-même?
Oui, mais il y a les deux.
C'est ça. Mais donc, les dons sont quand même radicalement issus, enfin, fruits de la vision béatifique.
Ah non.
Dans l'exercice de la patrie. Dans l'exercice.
Ah, non. C'est toujours la charité. Alors, la charité est source aussi de la lumière de gloire.
Oui, mais une fois que la lumière de gloire est donnée, elle nous permet d'atteindre Dieu immédiatement.
Oui.
Et donc, il y a un rayonnement de la lumière de gloire sur l'intelligence.
Oui, il faut bien voir, il y a un rayonnement de l'intelligence. Et l'intelligence est complètement en état d'extase.
Alors ça, c'est la vision béatifique. Donc c'est au-delà de son mode.
C'est pour ça qu'à ce moment-là, elle n'est plus parfaite.
Voilà. À ce niveau-là.
Et elle ne se pose plus d'interrogation. Elle est tellement prise par par Dieu qu'elle est en extase.
Et ça, c'est au-delà de son mode.
Oui.
Si on considère le mode propre.
Et alors l'exercice des dons peut se faire de deux manières différentes. C'est pour ça qu'on peut le faire. Il y a un exercice des dons en dépendance de la vision béatifique, mais je ne peux pas dire que c'est immédiatement le rayonnement de la vision béatifique. La vision béatifique me met dans un silence absolu, silence. Je suis entièrement clôturé en vous. Peut-être pas. C'est ça qui est extraordinaire, la vision béatifique. C'est quelque chose qui me prend de façon telle que je suis en cet état d'extase. Mais par la charité, puisque c'est toujours par la charité se rattache le don.
Même au ciel ?
Mais oui, même au ciel.
Ici, c'est par la charité, dans le sens que nous sommes mus par Dieu,
oui,
par l'Esprit Saint et donc par la charité.
C'est même au ciel, c'est la charité, parce que c'est le point de vue de la charité divine qui transforme l'homme, transforme l'âme humaine et l'âme humaine du Christ, vous voyez, pour connaître quelque chose qui n'est pas directement Dieu, puisqu'il y a par les dons du Saint-Esprit, il y a un métaxu, il y a un intermédiaire. C'est par exemple connaître combien Dieu il est le Fils bien-aimé en qui le Père a mis toutes ses complaisances. Donc, Jésus le sait, ça, qu'il est le Fils bien-aimé en qui le Père a mis toutes ses complaisances. Comment connaît-il ses complaisances du Père? Le don de sagesse. C'est le don de sagesse, c'est par le don de sagesse qu'il connaît cette complaisance d'amour du Père sur lui.
Mais le don de sagesse ne vient plus éclairer la connaissance de foi. Il n'a pas la foi. Donc, pourtant, il vient bien éclairer une connaissance.
La connaissance d'amour.
Oui, mais il y a un contenu. Enfin, l'amour donne une modalité
particulière. Il est aimé de cette manière unique par le Père. C'est pas la même chose de voir le Père et de comprendre qu'il est aimé du Père. Vous voyez ? Eh bien, ça, c'est le don de sagesse. Vous voyez ? Cette attitude réflexive à travers l'amour. Il est aimé par le Père. Il est aimé d'une façon unique. Il est l'agapétos.
La charité est un don créé, donc ne peut pas. C'est un don créé. Donc la connaissance peut-être par les dons qui se fait à travers la charité, mais pas la vision des.
Oui, c'est le sujet.
C'est le sujet
en tant qu'il est agapétos. Il se connaît comme agapétos. Tandis qu'au contraire, il voit le Père dans une extase d'amour silencieuse. Et il peut exprimer, on peut exprimer le fruit du don de sagesse. Il y a le sermo sapientiae, qui est un charisme par lequel j'exprime combien je suis aimé de Dieu. Ça, c'est le sermo sapientiae. Et ça ne relève pas de la vision béatifique.
Non, pas immédiatement. Non, de toute façon, non. Ni la sainte-incluse.
Oui, alors. Non, et c'est par la charité. Que vous comprenez le lien.
Pour moi, c'était comme la lumière et la couleur.
Qui est le don de sagesse ?
Non, la lumière, c'est la vision béatifique, la couleur, c'est la science infuse. C'est l'analyse en trois simples voies.
Oui, je vois très bien. On peut dire ce point de vue-là, on peut prendre ce point de vue de la lumière et la couleur. C'est lointain, hein. C'est très métaphorique.
Ça devrait le prendre justement pour montrer qu'il n'y a pas d'opposition entre le mode de la vision béatifique ne supprime pas la connaissance du mode humain.
C'est sûr, c'est pour ça que c'est du côté du mode humain. Mais les dons, c'est différent.
Oui, mais la lumière est quand même bien ce qui éclaire la couleur et ce qu'il a vu.
Oui, mais.
Si c'est à ce que là, il y a des
problèmes. Parce que c'est pas là-dessus que ça part.
Ça va y aller.
Je crois qu'on ne peut pas dire. C'est beaucoup plus. Pour nous, c'est ça. Mais pour le Christ, comme il n'y a pas le point de vue de la connaissance lunatique, n'est-ce pas, qu'il est dans la vision scientifique, c'est toujours le même. Vous, il y a un déclin. Tandis que pour le Christ, il n'y en a pas. C'est toujours la vision, le plein midi.
Mais ça respecte les
degrés. Ça respecte les degrés, puisque la vision béatifique ne supprime pas les modalités particulières de notre connaissance. Mais les dons, puisqu'on partait des dons, on ne parle pas de la science infuse. On partait des dons. Alors, les dons, c'est autre chose, c'est le point de vue de la charité. C'est par la charité qu'on comprend les dons du Saint-Esprit. Et c'est cette connaissance d'être aimé de Dieu, vous voyez, qui est autre chose, évidemment, que de connaître Dieu. Et ceci, aussi bien dans la vision béatifique qu'en dehors.
Elle a l'origine divine, mais elle a toujours des exercices humains dans Christ.
Ah, c'est ce qu'on va voir progressivement. Hein. L'exercice, c'est très délicat. C'est pour ça que. Et c'est là la différence avec les. C'est là le point de vue très, très délicat qu'il faut voir. Exactement ce que représente l'exercice de cette science infuse comparativement à l'exercice d'une connaissance acquise. Vous voyez ? Et on va voir, c'est très délicat. C'est pour ça que je ne traite pas ça tout de suite. Hein. Attendons. Oui. Exactement. Elles sont rattachées à la charité. Parce que notre manière d'agir regarde le sujet en tant qu'il est aimé. Vous voyez ? Et c'est pour ça que les dons n'ont pas, vous voyez, n'ont pas un objet nouveau. Mais ça éclaire le sujet qui aime. Oui, c'est ça. Et alors il y a un intermédiaire pour la connaissance du don de sagesse. L'intermédiaire, c'est l'amour de Dieu sur moi. Je suis bien aimé de Dieu. Oui.
Que l'on interprète comme parent des dons.
Mais c'est ça que je souligne. Oui. Je dis tout à l'heure, selon toute la tradition, ce texte d'Isaïe regarde les dons.
Mais en fait, ça ne regarde pas comme ça.
Attendez, hein. Voyez un tout petit peu. Voyez un tout petit peu, hein. Ce que dit saint Thomas, quand vous regardez ici. Comme par exemple tout ce qui relève des sciences humaines, puis par cette même science connue encore, tout ce que les hommes connaissent par la révélation divine, que cela relève du don de sagesse. Qu'est-ce qu'il y a ? Non. Ah, sûrement pas. Mais oui, ou du don de prophétie. Mais non, mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit, il y a le don de sagesse qui est le don de sagesse qui est le don du Saint-Esprit, et puis le charisme. Mais c'est pour ça qu'il faut faire grande attention. Que de fait, ici, quand il prend le texte d'Isaïe, Il va l'appliquer d'une façon très particulière, je suis tout à fait d'accord, mais il faut bien comprendre qu'il ne précise pas. Et selon toute la tradition, quand vous regardez les dons du Saint-Esprit, vous ramenez toujours à ce texte d'Isaïe. Oui. Alors, il lui donne ici, je suis tout à fait d'accord, et c'est ce que nous allons essayer de comprendre, c'est pour ça que je dis, je ne regardais qu'au terme. Vous ne pouvez pas encore le dire. Comment interpréter cette autorité que saint Thomas prend ici? Oui.
Vous proposez un argument là, dans le corps de l'article qui semble dire que tout ce qui relève de la science humaine est aussi l'objet de cette science.
Oui, oui. Oui, on va voir. N'essayez pas tout comprendre par le premier article. C'est difficile de préciser. Alors, première objection. Il semble que non. Cette science, en effet, a été donnée au Christ pour parfaire son intellect possible. Hein, c'est l'argumentation. Mais l'intellect possible ne paraît pas être en puissance absolument à tout. Il est le lieu de toutes les formes intentionnelles, comme dira Aristote. Hein. Mais à cela seulement, auquel peut le réduire l'intellect agent, qui est son propre principe actif. Ce sont précisément les objets qui peuvent être connus par la raison naturelle. Le Christ n'a donc pas connu par cette science les objets qui dépassent la raison naturelle. Réponse. La première difficulté n'envisage que la puissance naturelle de l'âme intellectuelle. Cette puissance se réfère à son agent naturel qui est l'intellect agent. Autrement dit, première référence, intellect agent. Seconde référence, la vérité première. Donc on répond tout simplement de cette manière-là. En faisant ça, vous ne prenez qu'un aspect de la chose. Deuxième réponse qui va être pour vous. Les images sont dans le même rapport à l'intelligence humaine que les couleurs à la vue, ainsi que l'enseigne Aristote. Mais la perfection de la puissance visuelle ne requiert pas la connaissance des objets incolores. De même, par conséquent, la perfection de l'intelligence humaine n'exige pas la connaissance des réalités qui ne peuvent être imaginées. Or, tel est le cas des substances séparées. Et puisque la science infuse du Christ n'a d'autre but que de parfaire son âme intellectuelle, on ne voit pas qu'il soit nécessaire que cette science lui donne la connaissance des substances séparées. Les anges. Réponse. L'âme humaine, dans l'état de la vie présente, et de quelque manière lié au corps, et ne peut, sans image, faire acte d'intelligence. Dans tous mes actes d'intelligence, les plus élevés qui soient, il y a toujours une dépendance vis-à-vis d'une image. Toujours. C'est pourquoi elle ne peut connaître les substances séparées. Elle n'a pas de connaissance des substances séparées. Dans la foi, vous affirmez que les sciences existent et puis vous connaissez analogiquement les substances séparées. Mais ce n'est pas une expérience directe. Mais après cette vie, l'âme humaine pourra d'une certaine façon connaître par elle-même ces substances séparées. Oui, c'est notamment dans l'expérience. Ainsi que nous l'avons dit dans la première partie. Et cela est surtout vrai des âmes des bienheureux. Or, le Christ, avant sa passion, ne fut pas seulement pèlerin, mais aussi bienheureux. Son âme pouvait donc connaître les substances séparées de la même façon que notre âme après la mort. Très curieux. Le statut du Christ, hein, ce que saint Thomas essaie de préciser. La perfection particulière de l'âme de Jésus dans son pèlerinage sur la terre. Il était comme nous, pèlerin. Mais il était en même temps celui qui avait la vision béatifique, qui était au terme. Et donc son âme connaissait un état particulier qui lui permettait l'exercice de cette science infuse. Troisième objection, aussi bien la perfection de l'intelligence ne requiert pas non plus la connaissance des singuliers. Il semble que par le moyen de cette science, le Christ n'a pas connu les singuliers. Enfin, la connaissance regarde l'universel, comme tout le monde sait. Non ? Alors, puisque la connaissance regarde la science regarde l'universel, Jésus n'a pas besoin de regarder les petits microbes, les petites araignées. Ça, c'est la connaissance singulière, ça échappe complètement. Connaissons l'araignée en soi. C'est suffisant. Pas besoin de reconnaître les autres. Connaissons l'homme en soi, pas connaître les autres, les individuations. Alors, réponse de saint Thomas. La connaissance des singuliers n'appartient pas à la perfection de l'âme intellectuelle. Hein? Cognitio singularum, singularium non pertinet ad perfectionem animae intellectivae. S'il s'agit de la connaissance spéculative, et même je dirais s'il s'agit du mode de notre connaissance spéculative, parce que je n'oserais pas dire ça jusqu'au bout. Hein?
Parce qu'ici, en fait, ce serait plutôt les contingents.
Oui, oui, tout à fait, tout à fait. C'est plutôt la connaissance des contingents, et puis l'apport. On est, je crois que c'est, la question est mal posée, mal expliquée. Parce que l'intelligence spéculative a besoin d'aller jusqu'au singulier, jugement d'existence. C'est impossible autrement. Elle ne s'arrête pas à l'universel. Je ne veux pas m'arrêter à l'homme. Je reviens toujours à Pierre, je reviens toujours à l'existant. Mais ce que je veux dire, c'est que les contingents, dans leur contingence même, ne spécifient pas. Oui. C'est une question de spécification et donc de perfection d'intelligence. L'intelligence est perfectionnée par la spécification. Et c'est ça, je crois, qu'il faut bien, bien comprendre. Hein, parce que autrement, alors, ça deviendrait... Et c'est ce que la scolastique, elle, a compris. La scolastique décadente a compris ça. Mais bon, très bien. Pas besoin de s'occuper du singulier. Alors, on voit très bien le spéculatif en chambre, n'est-ce pas, qui uniquement regarde l'homme en soi. Qu'il y ait en bas, dans le premier étage, livré vraiment à la circulation de tous les individus et de tous les contingents, un accident, aucune espèce d'importance, c'est du contingent. Je ne me salis pas les mains avec le contingent, et surtout pas l'intelligence. Se salir l'intelligence avec le contingent, c'est très très désastreux. Alors, vous voyez, cette attitude-là n'est pas juste, parce que l'intelligence ne peut être elle-même que toujours en passant par le singulier. Donc, l'existence. Si je reste dans l'universel, je ne saisis jamais plus l'existence. Et c'est ce qu'on a dit, l'essentialisme du thomisme, qui ne regardait plus que le point de vue de l'existence, qui ne regardait plus que le point de vue de l'essence. Alors, c'est faux. Une connaissance spéculative doit aller jusqu'au bout, puisqu'elle atteint l'être. L'être implique l'existence, et donc se fait à travers les singuliers. Mais elle ne s'arrête pas à ces modalités particulières contingentes, mais c'est le singulier qu'elle atteint. Alors, la connaissance des singuliers n'appartient pas à la perfection de l'âme intellectuelle s'il s'agit de la connaissance spéculative. Vous voyez comment il faut bien être attentif à ça. Mais elle en relève s'il s'agit de la connaissance pratique. Alors, Saint-Thomas, mais uniquement du côté pratique, c'est pas tout à fait juste. Car il n'y a pas d'opération possible sans la connaissance des singuliers, comme il est dit dans les éthiques. De là vient que la prudence requiert le souvenir du passé, la connaissance du présent et la prévision de l'avenir, ainsi que l'enseigne Cicéron. C'est même plus pratique qu'Aristote, mais c'est très amusant comme référence. Et puisque le Christ a eu dans le don de conseil la plénitude de la prudence, il s'ensuit qu'il a connu tous les singuliers présents, passés et futurs. Vous voyez, là aussi, il passe par les dons pour la connaissance infuse. Il faut le reconnaître. Hein. Faudra voir si c'est tout à fait exact. Et s'il n'y a pas une possibilité de donner autre chose. Parce que c'est ça qui gêne beaucoup les gens. Hein. On dit, mais au fond, c'est pas la peine de poser la science infuse, il suffit de poser la plénitude des dons du Saint-Esprit. Parce que c'est toujours en référence aux dons. Alors voyons l'article suivant. Vous posez ces questions, hein. Il faut vous poser des questions, parce que c'est une question très difficile, la question de science infuse. Et comme elle est très discutée aujourd'hui, il faut essayer de la comprendre. Le Christ pouvait-il se servir de cette science sans faire appel aux images? Alors ça répond à la question posée. Est-ce que la science infuse implique le conditionnement humain? Réponse de saint Thomas. L'âme du Christ connaît certaines réalités comme les substances séparées. qui ne peuvent être connues par le moyen des images. Elle a donc pu faire acte d'intelligence sans recourir à ces images. Le Christ, avant sa passion, fut à la fois pèlerin, terrestre et bienheureux. Alors vous voyez, c'est toujours les deux extrêmes sur lesquels il s'appuie. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est les deux points fixes. Il est bienheureux, vision béatifique. Il est pèlerin, science expérimentale. Il semble bien que pour Saint Thomas, ces deux aspects sont les plus certains. La vision béatifique, et la vision béatifique, elle est posée, l'âme du Christ connaît la vision béatifique en raison de la plénitude de sa grâce. Ça, pour Saint Thomas, c'est net. Une inférence théologique immédiate. Et le point de vue du pèlerin, l'expérience. Ce qui est beaucoup plus délicat, c'est de saisir cet intermédiaire. La science infuse. Et c'est vrai, c'est beaucoup plus délicat. Et de saisir cette science infuse distincte des dons. Et les dons du Saint-Esprit, il a la plénitude des dons, puisqu'il a la plénitude de la charité. Et là, ça nous sert toujours comme métaxu pour la science infuse. Il se sert des dons comme métaxu pour la science infuse. Ça, il faudra saisir. Comment les dons du Saint-Esprit, l'exercice des dons du Saint-Esprit, peuvent-ils être des métaxu pour poser la science infuse? Le Christ, avant sa passion, fut à la fois pèlerin, terrestre et bienheureux. Comme nous l'avons montré plus haut. Il fut en particulier soumis aux conditions du pèlerin, sous le rapport du corps qui était apte à la souffrance. Il participa aux conditions du bienheureux, surtout sous le rapport de l'âme intellectuelle. Or, telle est la condition de l'âme du bienheureux, que d'aucune manière, elle ne se trouve soumise à son corps, ni de dépendance de lui, mais qu'elle le domine absolument. De là vient qu'après la résurrection, la gloire rejaillira de l'âme sur le corps. Si au contraire l'âme de l'homme pèlerin a besoin de faire appel aux images, c'est qu'elle est liée au corps, de quelque manière soumise à lui et dépendante de lui. Les âmes bienheureuses peuvent donc, avant comme après la résurrection, faire acte d'intelligence sans avoir recours aux images. On voit combien saint Thomas souhaite cet état-là, hein. C'est extraordinaire, ça, on le voit très très bien. Et c'est ce qu'il faut dire également de l'âme du Christ qui jouissait pleinement des conditions de l'état bienheureux. Vous voyez comme c'est drôle comme argumentation, c'est pas direct. C'est indirect. Je comprends très bien si on a un peu un aspect critique de dire mais ça prouve rien. Ça prouve rien du tout. Une argumentation qui c'est curieux parce qu'on prend l'état de la vision très bien, la vision béatifique me libère du corps, c'est bien évident. Et donc j'ai plus besoin de fantasme. Je regrette plus rien du tout pour le petit fantasme de la télévision, c'est très loin. La télévision veut être une anticipation de vision. Alors c'est ça vous fout des tas d'images. Dans la vision réelle, vous montrez que tout ça, c'est bon du tout. Corruptible. Télévision corruptible. Ça vous met dans le contingent, c'est rien du tout. La vision béatifique vous met en Dieu. C'est très important pour nous, hein, n'oublions pas, puisque la vision béatifique, c'est ce qui achève tout l'appel de notre vie contemplative. Nous ne pouvons comprendre parfaitement, théologiquement parlant, ce que représente le mystère de l'oraison et de l'appel à la contemplation qu'en regardant la vision béatifique. Nous ne sommes pas dans le régime de la vision béatifique, hein. N'oublions pas, nous ne sommes pas. Mais Jésus, lui, vivait de la vision béatifique et vivait par le pèlerin. Et alors, les conditions de la vision béatifique vont nous permettre de montrer qu'il peut y avoir une science infuse qui ne se sert pas d'image. Hein? Mais vous télescopez l'argument propre. Vous regardez les conditions du sujet. Le sujet humain, par la vision béatifique, est libéré de toutes les images. Ça, c'est sûr. Le jour où on sera dans la vision béatifique, on n'aura plus besoin de télévision. Et si on est dans la contemplation et l'oraison, on n'a pas besoin de télévision, puisqu'on se prépare à la vision béatifique. Le pèlerin, lui, c'est autre chose. Le pèlerin, en tant que pèlerin, il a rencontré le besoin des fantasmes, le besoin des images, tout ça. Mais la vision béatifique me met au-delà. Alors, puisque la vision béatifique me donne cet état-là, il n'y a aucune impossibilité à ce que la science infuse me donne cet état-là. Puisque les bienheureux qui sont dans le ciel, au fond du fait même qu'ils sont bienheureux, sont libérés complètement du point de vue du corps.
Du point de vue de la cohérence interne de l'argumentation,
oui.
C'est un argument propre s'il y a un lien nécessaire entre les visions béatifiques et la science infuse.
Il n'y a pas de lien propre. Il n'y a pas de lien propre, c'est ça que je fais ça. C'est pour ça que c'est très curieux. Et ça, je crois qu'il faut saisir ce qu'il y a de particulier à cette argumentation. Oui.
Est-ce qu'on peut dire que c'est pratiquement comme la science bienheureuse, mais dans l'état présent?
Oui, c'est ça. C'est que le Christ à la vision béatifique tout en étant pèlerin, et donc pour essayer de bien comprendre cet état particulier du Christ et de l'exercice de la science infuse, regardons l'état des âmes séparées qui elles peuvent connaître sans les fantasmes, indépendamment de la vision béatifique. C'est très curieux, je dis, comme argumentation. Continuons, hein. On va essayer d'en faire après la petite synthèse pour essayer de comprendre. Mais je crois qu'il faut saisir, parce que ça fait comprendre comment certains rejettent. Si on est trop, trop cachetan, trop logicien. Je ne veux pas réduire Saint Thomas à la logique, hein. Sûrement pas ça. Il y a autre chose. Et il y a dans son souffle théologique, à certains moments, des moments qui peuvent nous paraître. C'est peut-être à ces moments-là on saisit mieux ce que c'est que la théologie scientifique. Hein. Nous, on a toujours un petit peu de peine à comprendre ce que c'est que la théologie scientifique. Et la théologie scientifique a quelque chose qui dépasse un peu ce que nous appelons, nous, scientifiques. Alors, il ne semble pas, selon la doctrine d'Aristote, en effet, les images sont à l'âme intellectuelle humaine dans le même rapport que les couleurs à la vue. Mais la puissance visuelle du Christ ne pouvait exercer son acte sans recourir aux couleurs. De même, semble-t-il, son âme intellectuelle ne pouvait comprendre quelque chose qu'en faisant appel aux images. Jésus était parfaitement homme, donc il avait la même psychologie que nous. Et donc il fallait nécessairement qu'il aurait recours aux images. Alors, réponse. Cette analogie que le philosophe pose entre la vue et l'intelligence ne vaut pas à tous les points de vue, comme tout raisonnement analogique. Il est manifeste en effet que le but de la puissance visuelle, c'est de connaître les couleurs, tandis que la fin de la puissance intellectuelle n'est pas de connaître les images. Ça, c'est très très joli, hein, parce que ça fait bien comprendre la différence. Mais les espèces intelligibles, les formes intelligibles, il faudrait mieux traduire les formes intelligibles, qu'elles appréhendent des images, et dans les images, durant le temps de la vie présente. Il y a donc analogie du point de vue de l'objet qui tombe sous le regard de l'une et l'autre puissance, mais non du point de vue du terme auquel chacune d'elles aboutit. Or, rien n'empêche une chose de parvenir à sa fin de diverses manières, selon les divers états dans lesquels elle se trouve, selon les divers états. Hein, c'est ça qui est important. C'est le status dans lequel se trouve l'âme qui est libérée par la vision béatifique. Elle se trouve dans un état particulier, et donc elle n'est plus liée au corps comme avant. Non, si nous avions l'expérience de la vision béatifique, on comprendrait ça tout de suite. Comme nous ne l'avons pas, c'est pas commode, hein. Or, rien n'empêche une chose de parvenir à sa fin de diverses manières, selon les différents états dans lesquels elle se trouve. Cette fin qui lui est propre n'en reste pas moins une. Dès lors, s'il apparaît impossible que la vue puisse connaître sans couleur, l'on comprend qu'il peut très bien se faire que l'intelligence, dans un état donné, connaisse non pas sans formes intelligibles, mais sans images. Donc l'analogie, c'est avec les formes intelligibles et non pas le point de vue des images. Hein, vous voyez bien. C'est une condition sine qua non, les images. Ce n'est pas un objet. Ce n'est pas ce qui spécifie ma connaissance. Ma connaissance n'est pas spécifiée par les images. Ma connaissance est spécifiée par les formes intelligibles, comme ma vision est spécifiée par les couleurs. Donc l'analogie, c'est entre les couleurs et les formes intelligibles, et non pas les couleurs et les images. Et c'est là l'erreur. L'erreur de l'objection, c'est d'avoir brouillé un peu les cartes, d'avoir fait de la condition sine qua non une spécification. Ce qui se fait facilement. Alors regardez la seconde objection. L'âme du Christ est de même nature que la nôtre. Autrement, le Christ appartiendrait à une autre espèce que nous. Ce qui est contredit par la parole de l'apôtre, il est devenu semblable aux hommes. Or, notre âme ne peut faire acte d'intelligence qu'en ayant recours aux images. Donc l'âme du Christ aussi. Réponse. L'âme du Christ, tout en étant de même nature que la nôtre,